SBS Radio.
Eh bien, nous sommes avec Nathanaël Bloch pour parler de l'actualité politique en Australie cette semaine. Bonjour et bienvenue à nouveau, Nathanaël.
Bonjour Jean-Noël et merci de me recevoir dans les studios d'SBS.
On parle d'abord le point sur les sondages et l'écart qui se resserre entre la coalition gouvernementale et l'opposition fédérale.
Tout à fait Jean-Noël. Alors comme on l'a dit lors d'une des dernières émissions, on va suivre avec intérêt l'évolution de ces sondages et les préférences des sondés pour à la fois les libéraux ou les travaillistes, mais aussi par rapport aux personnalités que sont Malcolm Turnbull et Bill Shorten. Il faut savoir, l'information importante, c'est que c'est le 35e sondage de suite où Turnbull est donné perdant. C'est 5 de plus que Tony Abbott. C'est un élément important quand on sait la rivalité entre les deux hommes. Mais l'écart se resserre quand on regarde les deux masses, c'est-à-dire libéraux et travaillistes, où les travaillistes ne l'emporteraient que d'une toute petite part, avec 51% des préférences par rapport à 49% pour les libéraux. Si on prend en compte l'ensemble des autres partis, et pas simplement cette opposition entre les deux partis principaux, l'alliance travailliste et vert, elle, est à 46%, elle perd 2 points, alors que la coalition et One Nation sont à 45%, donc les talonnes, juste les talonnes, en gagnant un point, et le reste pour d'autres partis et d'autres structures indépendantes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre comme information intéressante dans ces derniers sondages? C'était le retour par rapport à la réforme fiscale. On voit que les sondés sont très largement en faveur des suppressions, de la réduction des impôts pour les grandes entreprises. Enfin, quand on dit grandes entreprises, c'est celles qui génèrent entre 10 et 50 millions de chiffres d'affaires. Et donc, les sondés sont largement en faveur de cette suppression de la réduction des impôts. Alors que ces mêmes personnes-là sont opposées à ces mêmes suppressions de réduction quand il s'agit des petites entreprises, celles entre 2 et 10 millions de chiffres d'affaires. Donc en gros, les sondés sont d'accord de donner un coup de pouce aux petites entreprises. Par contre, elles sont plus sévères à l'égard des plus grandes qui génèrent le plus de chiffres d'affaires.
On parlait de Tony Abbott tout à l'heure, l'ancien Premier ministre, et ses déclarations maintenant sur l'accord de Paris sur le climat.
Alors oui, pour nos auditeurs, quelques mots sur Tony Abbott d'abord. Donc Tony Abbott, il a été Premier ministre du 18 septembre 2013 au 15 septembre 2015. Il est venu au pouvoir après Kevin Rudd et il est le prédécesseur de l'actuel Premier ministre Malcolm Turnbull. C'est quelqu'un qui est dans le paysage politique australien de longue date. Il est élu député libéral d'une circonscription du nord de Sydney depuis 1994. Et alors il a fait une déclaration incroyable il y a quelques jours. Il a dit que l'Australie devait se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Alors, il en avait déjà un petit peu parlé ces mois précédents, mais là, il l'a affirmé de manière encore plus assertive. Pour rappeler rapidement les accords de Paris sur le climat, c'est les accords qui ont fait suite à la COP 21 et qui prévoient notamment de contenir le réchauffement climatique, d'atteindre la neutralité carbone, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une des spécificités de ce texte, et c'est en ça que les déclarations de Abbott sont d'autant plus incompréhensibles, c'est qu'il y a eu une véritable unanimité, non seulement dans la rapidité avec laquelle ce texte a été, ces accords ont été décidés, mais aussi par le nombre de pays, je crois que c'est 196 des 197 pays référencés à l'ONU, qui ont été d'accord sur ce texte. Alors, cette déclaration de Tony Abbott, elle est incroyable, j'allais dire, à deux titres. D'abord, parce qu'on voit très bien, en fait, qu'il surfe sur la position de Trump et sur cette espèce de climat climato-sceptique à des fins vraiment très électoralistes, parce qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment que Tony Abbott trouve des terrains de différenciation par rapport à Turnbull pour se positionner peut-être encore plus à droite que Malcolm Turnbull en vue des prochaines élections. Et puis aussi, cette déclaration, et c'est peut-être le plus incroyable dans l'histoire, c'est qu'en fait, c'est Tony Abbott, quand il était Premier ministre, qui s'était prononcé en faveur de cet accord. Il était lui-même à l'initiative, c'est lui qui avait pris le lead dans son pays. On ne peut pas dire vraiment qu'il a beaucoup d'arguments en faveur de cette position. L'un de ses arguments, c'est de dire que les énergies renouvelables mettent à mal les industries et les énergies de son propre pays. Donc on sait bien que l'Australie fonctionne encore beaucoup. Enfin, en tout cas, il y a de nombreux débats par rapport au rôle que doit avoir le charbon au sein du pays, mais aussi parce qu'il dit que ça ne répond pas véritablement à ce qui se trouve dans le National Energy Guarantee, ce qu'on appelle le NEG ou le NEG, qu'a mis en place le gouvernement Turnbull. Et donc, en fait, on voit bien que Tony Abbott, il va essayer de trouver n'importe quel petit filon pour s'opposer à Malcolm Turnbull. Il a été pris de volée un petit peu par la ministre des Affaires étrangères, Bishop, qui lui a dit très calmement, « Cher Tony, il y a des règles et il faut s'y tenir. » Donc, affaire à suivre. Mais clairement, ce sera plus un enjeu de politique et électoraliste en vue des prochaines élections que véritablement un débat sur le fond. Et personne ne pense sincèrement que l'Australie se retirera de cet accord de Paris.
Et puis, finalement, on va parler de cette polémique autour des propos du sénateur David Lyon-Helm.
Oui, alors les polémiques autour du sénateur David Lyon-Helm, elles font couler beaucoup d'encre dans les journaux australiens ces derniers jours. Il faut savoir que David Lyon-Helm, c'est un personnage, il est membre du parti Liberal Democratic Party. Alors attention pour nos auditeurs, ce n'est pas le parti libéral, c'est un parti qui est plus à droite, qui date de 2001, dont d'ailleurs David Lyon-Helm est le seul représentant au Parlement fédéral australien. C'est un parti qui est même, on va dire, libertarien, qui prône le laisser-faire et une intervention extrêmement minimaliste de l'État dans les affaires qui régissent la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que David Lyon-Helm, il a un petit peu une réputation de girouette politique, parce qu'il a quand même commencé au Labour. Il est passé à droite par les Liberals, le parti de Turnbull, et même par d'autres petites formations politiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage? C'est lors d'un débat sur la légalisation des sprays au gaz de poivre, notamment pour protéger les femmes, il a déclaré à la sénatrice de South Australia, Hanson Young, quand elle-même affirmait qu'il valait mieux éduquer les hommes plutôt que d'armer les femmes avec ces sprays au gaz de poivre, il a déclaré: il serait peut-être temps que madame arrête de coucher avec des hommes. Ce qui évidemment a créé une polémique énorme au Parlement australien. Hanson Young lui a demandé de s'excuser platement et de s'expliquer par rapport à cette sortie. C'est-à-dire que David Lyon-Helm aurait pu trouver justement une porte de sortie pour taire cette polémique, mais il est allé encore plus loin et lui a déclaré d'aller se faire voir. Je ne vous dis pas les termes, mais en des termes même plus violents. Au niveau politique, Turnbull a évidemment demandé au personnage David Lyon-Helm de s'excuser parce que ce sont des remarques qui n'ont pas à avoir lieu ni au Parlement ni sur les lieux de travail. David Lyon-Helm a refusé et il a même traité Malcolm Turnbull de tous les noms. Au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quoi s'inscrit cette histoire. Selon moi, elle s'inscrit dans trois autres phénomènes. Elle s'inscrit d'abord dans le phénomène MeToo, qui est le phénomène global dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Et on voit véritablement qu'il y a encore un grand travail à la fois d'éducation des membres du Parlement, mais même d'exemplarité que ces personnes-là doivent avoir par rapport à leurs concitoyens. Mais aussi, ça s'inscrit dans deux autres phénomènes. Le premier, c'est le rapport 2018 des violences domestiques, dont on entend énormément parler ces derniers jours. Et encore une fois, c'est un rapport qui est porté par les politiques. Donc les politiques se doivent aussi d'avoir un devoir d'exemplarité par rapport à leur comportement dans l'Assemblée. Et j'allais rajouter, il y a un troisième phénomène sur lequel il est important de s'arrêter quelques instants. C'est le viol et le meurtre de Redis Dixon. Donc c'est ces jeunes femmes qui se baladaient seules dans un parc de Melbourne le soir, qui a été violée et tuée. Et puis, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est ce fait divers qui a donné lieu à ce débat au Parlement. Et d'une certaine façon, ce qu'on reproche à David Lyon-Helm, c'est non seulement de ne pas respecter les règles en vigueur au sein du Parlement et dans la société, mais également de ne pas respecter la mémoire de cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui encore est très prégnante et très présente pour les habitants de Melbourne et même d'Australie en général.
Nathanaël Bloch, merci à vous et à bientôt.
À bientôt, merci.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.